Dialogue entre Congolais présenté par Alain Irung.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Les Nations Unies ont annoncé ce week-end une contribution de 20 millions de dollars américains dans le cadre de STAREC, programme de stabilisation et de reconstruction de l'Est de la RDC. Où en est-on avec le programme STAREC et que faire pour que ce programme atteigne ses objectifs? Nos invités dans cet échange sont Tekis Moulaïla, sénateur PPRD et rapporteur de la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat, Mohamed Boulé, député national MLC et rapporteur de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, il est général à la retraite et ancien vice-ministre de la Défense, Jason Luneno, président de la Société Civile du Nord Kivu, bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
20 millions de dollars américains, c'est la contribution des Nations Unies pour la consolidation de la paix dans l'est du pays. L'annonce a été faite vendredi dernier par l'abbé Apollinaire Malumalu. C'était à l'issue de la réunion du conseil d'administration du STAREC, réunion tenue à la primature et présidée par le premier ministre Adolphe Mouzito, en présence du chef de la MONU Calandos et du ministre du plan Olivier Kamitato. Cette première contribution des Nations Unies à ce fonds initié par l'ONU devra permettre rapidement l'exécution des projets dans les provinces concernées par le programme STAREC, que préside l'abbé Apollinaire Malumalu. C'est quoi le STAREC? Quand a-t-il été lancé? Quel est son budget? Réponse avec vous, Kevin Côté.
Dans son ordonnance numéro 09/051 du 29 juin 2009, portant institution, organisation et fonctionnement d'un programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés dénommé STAREC, le chef de l'État, Joseph Kabila, a institué le programme STAREC pour une durée d'un an renouvelable, avec entre autres missions de stabiliser l'Est de la RDC à travers notamment l'amélioration de l'environnement sécuritaire, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones autrefois contrôlées par les groupes armés, la facilitation du retour et la réintégration des personnes déplacées et réfugiées et l'accélération de la relance des activités économiques. Le STAREC a pour rayon d'action les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema, ainsi que la province orientale et la province du Katanga. Au niveau national, le STAREC agit à travers le comité de suivi et les équipes techniques. Le comité de suivi est présidé par le premier ministre. Le ministre du plan assure le secrétariat technique du comité de suivi du STAREC. Le STAREC est exécuté avec l'appui des Nations Unies et de la communauté internationale. Ce projet s'ajoute à 15 projets en cours d'exécution pour une valeur de 138 millions de dollars américains contribués par la communauté internationale dans le cadre du STAREC.
Tekis Moulaïla, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Vous êtes avec nous dans ce studio. Vous êtes sénateur PPRD et rapporteur de la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat. Vous venez de le suivre. Le STAREC a été lancé en juin 2009. Où en est-on à ce jour?
Merci, monsieur le journaliste. Vous venez de poser la question. Où en est-on? Nous sommes à l'étape de mise en place des différents projets prévus dans le cadre de l'exécution du programme STAREC. Et en ce moment, vous venez de nous rappeler, de nous rafraîchir la mémoire. Nous avons déjà un programme qui est financé par la MONUC, d'ordre de 20 millions, et les différents programmes sont en cours ou les projets, et les financements sont en train d'être recherchés, et en ce moment, les différentes équipes sont sur terrain pour la matérialisation du projet, et je préfère m'arrêter là pour que vous puissiez...
Alors, quand vous parlez d'étape de mise en place, ça veut dire quoi concrètement?
Non, c'est-à-dire que c'est l'étape de l'opérationnalité. Dans le cadre de la planification, les étapes partent de l'identification jusqu'à l'exécution. Et pour le moment, je préfère vous informer que le programme a déjà démarré, le programme a des techniciens qui sont sur terrain et il est prévu dans les différentes activités, les différents projets. Vous avez parlé de la consolidation de la paix. Vous avez parlé, moi je vais vous dire, il y a aussi le programme en rapport avec le casernement des militaires. Là, les équipes sont sur terrain pour identifier les différents sites, à Nitouri, Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema et au Katanga. Il y a aussi le programme de désenclavement. Vous comprendrez que, à ce niveau-là, on est au niveau de préparation. Il y a eu des réunions en rapport avec les travaux des routes. On a identifié les routes prioritaires. On est en train...
Voilà, excusez-moi sénateur, je me permets de vous arrêter à ce niveau. Vous êtes encore avec nous dans l'émission. Le temps de donner la parole à l'honorable Boulet, vous aurez l'occasion de parfaire...
Je suis habitué à être arrêté par vous.
Je vous conseille. Je vous en prie. Honorable Mohamed Boulet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national MLC et rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, ancien général, hein, vous êtes à la retraite et ancien vice-ministre de la défense. Vous venez de suivre le sénateur Moulaï là. À votre avis, où en est-on aujourd'hui dans l'exécution du STAREC?
Je crois, à notre avis, ce qui devrait nous donner le parcours ou la réalisation de ces projets à ces jours-ci, ce sont ceux qui ont été chargés par cette ordonnance de l'exécution. Pour nous dire 4 mois après que le STAREC a vu les jours, où en est-on? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'à mon humble avis, lorsque les provinces du Nord, Sud Kivu, la province de Katanga, Maniema et la province orientale ont été ciblées par ces projets pour la stabilisation de la sécurité et la reconstruction, je crois qu'il fallait d'abord faire des analyses, des études, des faisabilités pour fixer les priorités de manière spécifique à chacune de ces provinces. Quelles sont les menaces auxquelles il faut faire face en priorité en termes de sécurité? Il y a d'abord les FDLR, qui sont toujours là, qui continuent à tuer à travers la province du Nord, Sud Kivu. Et à travers la province orientale, il y a les LRA. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour arriver à les mettre hors d'état de nuire? Et tout cela parce que c'est une mission qui a été donnée. Au regard de cela, il faut les moyens financiers conséquents pour permettre aux forces chargées d'exécution de cette mission, de sécurisation des populations, d'être en mesure d'avoir les capacités opérationnelles nécessaires pour pouvoir réaliser. Parce qu'il s'agit là, en ce moment-là, des forces chargées de mener des actions, comme c'est le cas maintenant, dans la chaîne, dans la hiérarchie du commandement, compte tenu de cette ordonnance-là, en tirer toutes les conséquences quant à la structure militaire, le haut commandement militaire, qui doit évaluer de manière permanente les capacités opérationnelles des unités engagées, les menaces ainsi que les risques qui persistent encore et l'impact budgétaire et éventuellement faire des propositions. Quant à la structure politique de défense, donc le Conseil supérieur de la défense, au regard de cela, en se réunissant autour du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, qui préside cette réunion, pour avoir les avis nécessaires du Conseil supérieur de la défense, lui permettra de donner des directives pour corriger le cas échéant en vue d'aller à la poursuite pour atteindre ses objectifs.
Honorable Mabène Boulay, permettez-moi également de vous arrêter. Là, je vois le sénateur Moulaï là, qui demande la parole. Vous l'aurez la parole, sénateur, le temps de faire parler Jason Luneno. Jason Luneno, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un président de la société civile du Nord Kivu. Vous venez de suivre les deux députés qui ont parlé avant vous. Le premier ministre Adolphe Mozito a déclaré vendredi dernier, hein, lors de la réunion du conseil d'administration de SAREC, que les populations voient déjà sur le terrain les premières réalisations concrètes du plan SAREC. Le confirmez-vous, vous qui êtes sur terrain?
Bon, je vous remercie d'abord de nous avoir donné l'opportunité de donner notre visite par rapport au pour parler aujourd'hui. Je voudrais aussi vous dire que il est important de situer l'opinion, donc elle est en train de suivre le débat sur ce programme SARES. Je veux dire ici à tous ceux qui nous écoutent que SARES a été une des constructions du programme Amani. Alors, le programme Amani, je voudrais aussi rappeler à tous ceux qui nous suivent que ça a été tout un processus, tout un mouvement de masse qui a connu une participation et qui essayait de rassembler tout le monde autour de ses actions, autour de ses initiatives, ses objectifs, ainsi de suite. Mais le programme Amani a connu des difficultés financières. Je voudrais vous dire aussi que si aujourd'hui il y a le SARES, je peux vous dire que le SARES n'est pas encore connu suffisamment ici, à part peut-être dans ce bureau, où les gens parlent du SARES, mais les gens se demandent qu'est-ce que c'est, c'est quoi et où est passé le programme Amani. J'aurais souhaité franchement que nous puissions nous mettre d'accord sur la nécessité du SARES par rapport à ce que faisait le programme Amani. Le programme Amani, si on pouvait mettre de côté certaines commissions qui étaient composées et dans lesquelles les ex-groupes armés avaient évolué, et ainsi de suite, ça aurait... Là, moi, je dis, bon, c'est tout ça. Et comme on a dit qu'il n'y a plus de groupes armés, on aurait pu trouver une autre formule par rapport au programme Amani. On enlève dans le programme Amani les commissions qui n'avaient plus sa raison d'être, et on laisse à ce programme Amani des commissions ou bien des axes sur lesquels on devait travailler, parce que le programme Amani, personne, les gens nous disent ici que ce n'était pas une initiative qui était partie de la base jusqu'au sommet. Le SARES, franchement, il n'est pas encore connu. Nous savons encore d'ailleurs que la coordination nationale, celle qui a été nommée à partir de l'ordonnance du Conseil d'État, cette coordination nationale se retrouve encore à Kinshasa. Et nous voyons ici au bureau du programme Amani les quelques rescapés au niveau du programme SARES, les quelques rescapés du programme Amani qui essayent d'animer le SARES ici.
Si je vous comprends, vous ne voyez pas encore les résultats sur terrain.
Non, le programme SARES n'est pas encore connu. Parce que ces animateurs ne sont pas encore là. Vont-ils rester à Kinshasa jusqu'à quand? Ceux qui sont ici sont les rescapés du programme Amani. Mais le SARES, il n'est pas encore connu du public, il n'a pas encore lancé ses activités, que nous, on se demande s'il a été créé pour une année et qu'on est déjà consommé 4 mois. Mais 6 mois après, on va évaluer encore le SARES, on va dire que le SARES n'a rien fait, on va encore annuler, on va encore songer à créer d'autres structures. L'essentiel pour nous, sociétés civiles, ce n'est pas de créer des structures. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, on le fait avec qui, et on le fait comment. Parce que nous avons mis des experts. Nous, sociétés civiles, nous avons mis des experts au niveau du programme Amani. Ces experts sont encore là.
Merci. Oui, merci.
Ils font des programmes de structures, peut-être qu'ils ramassent tout simplement des animateurs des partis politiques. On a besoin de placer des gens qui se retrouvent dans des partis politiques et qui embêtent les leaders de ces partis politiques, et il faut les placer. Ce n'est pas ça la volonté de la population.
Merci. Jason Mouneno.
Oui.
Excusez-moi, okay. Permettez-nous de dialoguer. Hein. Vous êtes encore avec nous dans l'émission. Le temps de faire réagir le sénateur Moulaïla à vos propos. Sénateur Moulaïla, le SARES, est-ce un programme de trop?
Oui, le responsable de la société civile a fait un aveu pour lequel je lui suis très reconnaissant.
Lequel?
SARES n'est pas connu. C'est-à-dire, SARES, ça fait partie. Quand vous avez des notions nuancées en rapport avec le processus de maintien de la paix, en rapport avec les missions, la gestion des missions nationales ou internationales de la paix, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui la gouvernance internationale à travers la MONUC a mis leurs participants. Quand vous lisez la composition de membres du comité de suivi, vous trouvez le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo comme membre. Vous retrouvez le PNUD, vous retrouvez les chefs de file de bailleurs. Pourquoi?
Est-ce un programme, pays, est-ce un programme de trop?
Mais c'est un programme opportun et qui arrive au moment où il fallait arriver. Je vous rassure, pour tout celui qui sait lire les signes de temps, ce programme annonce la fin de tout ce que vous entendez parler par les poches d'insécurité, tout ça. Nous sommes maintenant à l'étape de reconstruction post-conflit, avec le concours de la gouvernance internationale par la MONUC qui est ici. Et la MONUC vient de montrer déjà les signaux très forts de sa participation et de l'importance de ce programme. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et vous avez laissé l'honorable Boulet parler pendant longtemps, développer tout ce qu'il a su dans l'armée. C'est très bien. Ce programme n'est pas à confondre avec tout cela que nous connaissons comme stratégie militaire ou comme opération militaire. C'est un programme post-conflit en rapport avec le processus de paix. On parle de stabilisation et dans les différents éléments que vous trouvez dans ce programme, on vous dit, écoutez, il y a de... On parle de désenclavement, on parle de casernement, on parle de...
Ce n'est pas militaire tout ça?
Je vous parle du désenclavement, je vous parle du casernement, je vous parle de la consolidation de la paix, je vous parle de la lutte, hein, la lutte contre les violences sexuelles et autres. Je vous parle de la réhabilitation des routes, des écoles. Il a existé un programme ici, à un moment donné, qui s'appelle le programme qui s'appelait ECOP. C'est le programme ECOP est intégré dans le programme Starac. L'objectif, on va identifier, on va construire les écoles, on va voir les routes qui ont été détruites ou les ponts qui ont été cassés par les différentes guerres qu'on a connues, on va réhabiliter. Aujourd'hui, quand il y a LRA, il y a FDLR, il y a d'autres dispositions qui sont prises. Il ne faut pas confondre qu'il y a un, qu'il y a deux et d'autres opérations militaires qui vont suivre avec Starec. Ok. Et puis, pour notre collègue de la société civile, c'est normal, mais quand je lis le programme et les membres qui doivent se retrouver, non, on parle d'un représentant de la société civile au comité de suivi. Je crois qu'elle doit être calme, la société civile sera associée à tous les niveaux. Et quand les acteurs ou les techniciens de Starec vont descendre sur le terrain, ou toutes les activités qui auront lieu sur le terrain, ça sera avec la population. Cette population, c'est cette population qu'on appelle la société civile.
Mais ça fait 4 mois, hein, la population.
Mais 4 mois, quand on parle d'un programme, monsieur, il faut savoir planifier. Ce n'est pas dans 4 mois que vous aurez les résultats d'un programme qui doit se réaliser sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape d'élaboration de projets, à l'étape de recherche et de financement, et en dehors des différents bailleurs qui se prononcent par-ci, par-là, il y a aussi le gouvernement qui doit mobiliser ses fonds. Le programme se retrouve dans le budget qui est en discussion au Parlement. Alors, ils veulent voir le programme sur le terrain d'une manière théorique ou d'une manière technique. Je vous dis, il y a des techniciens qui sont descendus.
Voilà, sans vous arracher la parole. Vous avez toujours la parole, honorable Moulaïla. Vous êtes très suivi. Il y a cet auditeur Jackson de Matadi qui vous demande les conditions sont-elles réunies pour déjà lancer un programme de stabilisation à l'Est?
Il faut qu'on lance ce programme de stabilisation dans toutes les zones jadis théâtre de conflits armés. Puisque, à ce jour, la volonté politique et national et international est celle de rétablir la paix, de recouvrer la paix et de passer à la reconstruction. Il faut qu'on y pense maintenant et pas après maintenant. Et c'est très important et je vous informe que ce programme, c'est un programme qui est arrivé vraiment au temps indiqué pour que, une fois pour toutes et d'une manière appropriée, qui est de réalisation, de reconstruction, de réalisation, de réhabilitation, de consolidation de la paix dans cet espace. Ça ne prend pas seulement Nord Kivu, Sud Kivu, ça prend le bas où elle est, où certains
certains intervenants actuels ou d'autres ont été les maîtres d'insécurité et de déstabilisation. Et maintenant, on va reconstruire ce qu'ils ont détruit. Ils ne doivent pas commencer à donner des théories.
Voilà. Honorable Mohamed Boulé, vous venez de suivre l'honorable Moulaïla. Pour lui, vous confondez un peu les choses. Hein. Mais en plus, il y a Christian de Goma en Nord Kivu qui dit « Ce fonds alloué au SAREC n'est qu'un effort vain car nous ne voyons aucun impact positif de ce programme sur terrain depuis son implantation. »
Oui, je termine. Je commence par le dernier propos de l'honorable. Je pense que par respect du, donc, lorsque nous intervenons, il ne faut pas donc diriger des interventions contre un intervenant que je suis. Donc, par respect, je pense qu'il devrait retirer cela. Je voudrais dire que l'honorable ne vit pas cela, la concrétisation, par la conditionnalité de la sécurité. Comment voulez-vous que vous fassiez des programmes comme ce programme-là? Nous voulons bien. Au moment où les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, à titre d'exemple, je prends l'exemple de la province orientale. Ne le sait-il pas qu'en 2006, la MONUC était la première à avoir tenté des actions contre le NRA? Quel était le résultat? On n'a pas obtenu le résultat escompté. C'était vraiment c'est catastrophique, nous devons le dire. Alors, pour lui, il pense que le programme va aller comme ça, comme par baguette magique, sans que les autres conditions liées à la réalisation, à la paix, soient assurées. Dire que ce n'est pas nécessaire, il faut lancer le programme. Est-ce que maintenant là, comme il le dit, parce qu'il a cité les basuilles, peut-il maintenant là aller en territoire d'Ango et commencer à énoncer ce programme-là, soit à Bakwa, soit à Ango ou bien à Dungu? Mais il y a quand même une certaine logique. Un autre exemple, parce qu'il dit qu'il faut construire des routes. Le chef de l'État l'avait annoncé, nous avons vu des images, que des engins pour les brigades de l'office des routes arrivaient par l'Est. Par où ces engins pourraient-ils atteindre les Maniema, atteindre le Nord ou le Sud Kivu, du moment où on a des problèmes et les routes sont coupées et les éléments FDLR sont là? Donc, je ne crois pas être à côté de la plaque. J'ai dit, il y a 4 mois, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Plutôt que de s'attaquer de cette manière-là que je n'ai pas apprécié.
Voilà, je rappelle que le sénateur a retiré ses propos. Hein. Sénateur Moulaïla, gardez votre calme. Nous allons faire réagir Jason Luneno et puis vous allez reprendre la parole. Jason Luneno, vous qui êtes sur terrain, les conditions sont-elles réunies, comme a dit l'honorable Boulé, les conditions sont-elles réunies pour lancer un nouveau un programme de ce genre à l'Est?
Moi, je voudrais vous dire que il y a des efforts qui ont été constatés par la population, par toutes les forces vives, par les uns et les autres dans cette partie du pays. Il y a des efforts qui risquent d'être découragés. Parce que si je peux vous dire aujourd'hui que les ex-animateurs des groupes armés, qui sont encore dans la ville de Goma, qui sont encore passés par là, en train de tourner sans rien faire, sans aucune occupation, ils n'ont pas peut-être donné l'essentiel ou bien tous les effectifs qu'ils avaient. Beaucoup d'autres attendaient encore l'intégration. Ils n'ont pas été intégrés. Je vais vous dire aussi que il y a encore au moins trois groupes encore actifs dans cette partie du pays, donc nos pivots, qui n'ont pas été intégrés et qui causent beaucoup mal refardessé. Je peux aussi vous dire que pour avoir de la semence et aller semer, il faut avoir défriché. Vous n'avez pas encore défriché le terrain, vous n'avez pas encore labouré, vous n'avez pas les terrains propices pour recevoir la semence, vous mettez sur pied un programme de stabilisation et reconstruction. Moi, je pense que ce qui est fait actuellement devait être d'abord consolidé. On devait d'abord procéder à l'évaluation des opportunités qui ont été offertes au gouvernement central pour donner la paix à la population du Nord Kivu et à la République démocratique. On devait évaluer les risques. Parce qu'il y a des risques actuellement. Il y a des risques, je vous le dis.
Moi, je suis un homme de terrain, je suis sur le terrain tout le temps. Il y a des risques dans ce processus de pacification ici au nord du Kivu. Donc, tout ça devait être évalué. Il est vrai que l'état des déplacés ont été démantelés, les déplacés, certains sont allés dans leur village, et d'autres sont restés sur la route parce que la sécurité n'était pas encore effective dans leur milieu d'origine. Il y a encore des opérations qui sont menées contre l'est de l'air. Et tout ça mine le processus ou bien le programme s'arrête. On ne peut pas commencer à penser stabilisation projet pendant qu'on n'a pas encore complètement préparé le terrain qui va recevoir ce projet de stabilisation et de reconstruction. Moi, je pense que les esprits du gouvernement devaient être orientés sur ce qui a été lancé en janvier, voir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a déjà fait, pour savoir comment mettre sur le terrain le programme SAREC. On va mettre sur le terrain le programme SAREC dans un terrain qui n'est pas encore totalement déblayé, dans un terrain qui n'est pas encore complètement préparé. Donc nous pensons que ça va être la même chose comme le programme Amani.
Voilà, il y a beaucoup d'auditeurs. Très rapidement, concluez, je vous en prie, à ce niveau. Concluez à ce niveau.
Oui, je voulais conclure ceci. Même si le programme SAREC pourrait ou bien pouvait aujourd'hui mobiliser des moyens importants, si même on pouvait avoir la présence de la communauté internationale dans le comité de suivi, c'est une bonne chose. Nous voulons que cela se fasse comme ça.
Merci.
Mais si le terrain qui va recevoir le programme n'est pas complètement préparé, on risque encore de connaître beaucoup de difficultés. Et on va dire, mais finalement...
Merci, Jason. Voilà, il y a beaucoup d'auditeurs qui vous suivent et qui réagissent par rapport à ce sujet. Je vais vous demander de suivre leurs idées et de donner des brèves réponses. Il y a Serge Chaba de Bouna en province orientale. Pour que le SAREC réalise l'objectif lui assigné, il va falloir une gestion transparente pour sa visibilité. Fiston Coco de Bukavu Sud-Kivu, nous entendons souvent parler des fonds octroyés à la RDC, mais on n'en voit pas toujours les réalisations. Je pense qu'il ne faut pas allouer les fonds, car ça retarde l'autodépendance du Congo qui est si riche. Maître Franck de Goma au Nord Kivu, comment voulez-vous que le SAREC atteigne les objectifs escomptés tant qu'il y a des cas de détournement qui sont signalés à plusieurs niveaux de l'État? Sénateur Tekis Mobaïla.
Oui, avant de répondre à leurs questions d'une manière très brève, je voudrais vraiment tranquilliser les uns les autres en ce qui concerne la réalisation de la mission des SAREC sur terrain. Pour tout programme, il faut avoir en tête le simple principe de planification. Il faut vous imaginer qu'il y a une période pour les études, qu'il y a une période pour la mobilisation des ressources ou des fonds, il y a une période pour aussi la mobilisation des hommes, mais à ce jour, SAREC, si on dit rien n'est vu sur terrain, je crois. Les études qui ont déjà été menées commencent à nous ramener de fruits. La Monique n'a pas décaissé ou n'a pas promis 20 millions en lisant l'ordonnance qui crée. Il y a eu un projet et ce projet ne pouvait se faire que dans un bureau sur base de la connaissance du terrain.
Soyons pratiques, honorable.
Nous sommes très pratiques.
Il y a l'amélioration de la situation sécuritaire qui est prévue dans les SAREC.
Notamment
avec le désengagement.
Voilà.
Aujourd'hui, il y a
la consolidation
des groupes. Écoutez-moi, s'il vous plaît.
Le programme Amani.
Écoutez-moi. Écoutez-moi.
C'est à vous de m'écouter. Vous m'avez invité.
C'est moi qui pose les questions, honorable, et je vous donne la parole. Écoutez-moi.
Il y a plus de 26 000 hommes. Et cela venu de différents groupe armé. Vous ne pouvez pas le reconnaître. Il faut avoir la culture des chiffres, comme disait un des orateurs que j'ai eu à rencontrer. Et à ce jour, quand vous lisez le texte, l'amélioration de l'environnement sécuritaire, mais SAREC va aussi, va s'y atteler.
Avec tout ce qui se passe dans les groupes, groupes armés qui attaquent les
groupes armés, sont en train d'être neutralisés, maîtrisés. Progressivement, nous allons aboutir
à la fin. Il ne faut pas avoir d'inquiétude, ne soyez pas pessimiste.
Voilà.
Alors, je vais répondre aux questions. Vous pouvez les rappeler?
Non, on va passer honorable, on a
plus
le temps.
Pour la gestion,
oui.
Le programme est géré d'une manière très transparente. Il faut voir d'abord le comité de suivi. Qui compose ce comité de suivi? Le comité qui est en place, c'est un comité qui reçoit ce fonds sur base d'un projet, d'un programme d'exécution physique,
voilà,
et financière bien connu.
Voilà,
donc, il ne faut pas commencer par accuser les gestionnaires avant de les voir sur le terrain dans la réalisation des différents programmes.
Merci.
Et projets retenus.
Merci honorable, merci honorable. Juste rappeler que nous sommes dans un débat, il y a trois intervenants, vous êtes en avance de parole, veuillez en tenir compte. Honorable Mohamed Boulé, il y a Robert Bahomé de Bukavu, au sud Kivu, qui dit « Je pense que cette aide financière vaudra quelque chose si elle participe réellement à mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC. Je me demande si 20 millions de dollars sont suffisants pour matérialiser le programme Starec. »
Oui. En principe, en une année, il fallait, à mon humble avis, quand on fait la planification, il faut aller plus loin. On fait les études, la planification, la programmation avant de passer à l'exécution et de contrôler finalement l'exécution pour se rendre compte si les écarts réalisés sont-ils positifs ou négatifs. Et s'ils sont négatifs, en ce moment-là, il faut rechercher les failles, les faiblesses pour pouvoir les corriger. En ce qui concerne les 20 millions, les 20 millions n'est pas l'enveloppe globale de ce programme-là durant les délais qu'on a fixés pour l'exécution de ce programme. C'est-à-dire, c'est une contribution ponctuelle, je peux me permettre cela, de la MONUC à ce stade-ci. Par opposition, la grande responsabilité, parce que ce sont aussi des questions de souveraineté, il faudrait que le gouvernement de la République démocratique du Congo déploie aussi des efforts pour mobiliser sa quote-part afin de venir intervenir pour pouvoir réaliser cela. Et tout cela, comme ceux qui ont posé la question l'ont dit, dans la transparence. La transparence, théoriquement, c'est une bonne chose, dire que l'exécution physique, c'est une bonne chose, mais que, concrètement, qu'on voit sur le terrain la réalisation qui a un impact visible, que la population, celles-là qui sont dans le besoin, puissent affirmer que réellement, nous constatons qu'il y a un changement. Donc, 20 millions ne suffiront pas pour pouvoir réaliser le nombre de projets. Je pense que, comme on cite, il y en a 16. Et je ne suis pas certain que c'est cela qui fait l'enveloppe globale de ces projets tels qu'évoqués tout à l'heure.
Que faut-il pour que le programme SARET soit une réussite? Xavier Zébrouck, directeur adjoint du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité GRIP, une ONG basée à Bruxelles en Belgique, pense que tout passe d'abord par la sécurisation des populations de l'Est de la RDC et la reconstruction de la justice. On écoute Xavier Zébrouck au téléphone de Samuel Kachak.
Je crois que le premier défi est un défi sécuritaire. Il faut d'abord que les populations du Kivu et de l'Ituri essentiellement puissent vivre en paix sans avoir la menace quasi permanente d'exactions, de massacres, de viols, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Et donc quand on voit les centaines de milliers de déplacés qu'il y a au Kivu notamment, ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on peut reconstruire et repartir sereinement vers l'avant. Donc je crois que le défi est d'abord sécuritaire, y compris au niveau de la reconstruction de la justice, pour faire cesser l'impunité de tous les massacreurs et de tous les violeurs.
Jason Lounemo, président de la Société civile du Nord Kivu, que faut-il de plus pour que le SARET puisse atteindre ses objectifs?
Oui, parce qu'ils font d'abord les opérations qui sont menées contre l'Est de l'air. Sont terminés, il faut qu'on nous dise qu'ils sont devenus des ex-groupes armés parce qu'ils sont encore là. Il faut qu'on nous dise si on a déjà ramassé les armes qui sont disséminées dans les différents villages, dans la population par-ci par-là, qui ont été distribuées par certaines personnes ici. Il faut qu'on puisse préparer, comme je le disais, le terrain. Et préparer le terrain, cela veut dire qu'il faut pacifier totalement la province parce que l'Est de l'Est sont là, les ADF NAM sont ici. il y a encore des groupes armés qui sont encore très actifs ici, on ne saura pas commencer à réfléchir reconstruction, pacification ou bien stabilisation dans un contexte comme celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il est certain que les armes à un certain niveau, aux environs de la ville de Goma, autour, un peu presque partout, quelque part, dans la Suisse, dans Yabongo, c'est foutu contre le gouvernement. Mais les armes sont encore très actives contre les groupes armés, contre l'FDLR. Et il faut comprendre les représailles que l'FDLR sont en train de faire sur la population. Et c'est la cause de mouvements massifs des populations qui se déplacent encore par-ci par-là. Donc, nous aurions souhaité que le gouvernement accélère le processus des opérations et que ça donne des résultats qui soient en mesure de soutenir les programmes SAEC. Parce que, franchement, la reconstruction de cette partie du pays ne pourra se réaliser que lorsque les paramètres sécuritaires auront été maîtrisés de la manière la plus souhaitée par tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes assis sur une charbonnière qui était écrasée et qui est donnée du feu. On ne saura pas éteindre très facilement. La situation n'est pas bonne actuellement dans notre parti.
Merci. Honorable Mohamed Boulé, en plus des défis sécuritaires, comme a dit Xavier Zebrou, de la reconstruction de la justice, vous avez aussi suivi Jason Luneno. Que faut-il pour que ce programme réussisse? Vous avez parlé de la programmation, mais le programme a déjà commencé. Qu'est-ce que vous proposez pour sa réussite?
Mais le programme a déjà commencé. Comme je l'ai dit tout à au début en introduisant, mais j'étais ahuri par la réaction de mon collègue rapporteur du Sénat, de minimiser que ces aspects n'avaient pas un impact direct en ce qui concerne la sécurisation, n'avaient pas un impact direct par rapport aux opérations militaires. Mais c'est faux, mais il est revenu quand même après pour reconnaître cela, comme d'autres intervenants ont dit ici. Pour que cela aille, ça doit aller de pair, ça c'est une condition sine qua non. Pour pouvoir réaliser ce programme-là sur le terrain, il faut éliminer tout, et alors tout avec S, ces postes d'insécurité qui demeurent encore là, qui sont là, qui ont chaque jour avec son chapelet de problèmes à nos populations. Mais sans cela, mais ce programme-là risque seulement d'être l'affaire, d'être traité ici par le conseil d'administration, ici au niveau de Kinshasa, et qu'à l'intérieur, même de ces provinces, la province du Katanga, Maniema, Nord-Sud, Kivu, Oriental, on ne voit pas la réalisation, ou seulement dans des petites parties, mais une grande partie, prenez les étendues, les espaces où l'FDLR est tout ça dans les territoires de Walungu, Masisi, et récemment on a parlé aussi de Lubero, et prenez le Haut-Ouélé et une partie du Bas-Ouélé. Mais il faut d'abord arriver à maîtriser cette situation-là qui est en rapport avec la sécurisation.
Or,
la sécurisation, ce ne sont pas les animateurs du conseil d'administration, ça devient l'affaire des forces armées qui a ses missions constitutionnelles pour assurer l'intégrité du territoire national.
Honorable Boulet, quelles sont les chances finalement que vous accordez à ce programme?
Les chances que nous accordons à ce programme, c'est d'abord à ce stade ici, il y a 4 mois, que le Premier ministre qui préside ce programme s'arrête et convoque ces gens pour faire l'évaluation, voir est-ce que les objectifs intermédiaires, si je peux me permettre, du départ, durant ces 4 mois, ont-ils été atteints? Si oui, quel est le niveau de réalisation et quel était le coût? En ce moment-là, ce qui n'a pas été fait, pour quelles raisons? On énumère les raisons sécuritaires. Où exactement on cible? On dit par exemple le territoire de Walungu, ça pose problème. Le territoire de Masisi, ça pose problème. Lubero, Ango, Dungu, ainsi de suite. Que faire à ce moment-là? Parce que le gouvernement dispose des forces armées, de la police et des services de sécurité. Mais c'est à lui encore à répondre à cette question-là pour voir quelles sont les stratégies à adopter pour permettre la réalisation de ce programme afin d'espérer atteindre ses objectifs. Ce n'est que de cette façon-là.
Honorable sénateur Moulaïla, visiblement, le défi sécuritaire reste la condition sine qua non de la réussite du
Sahel. Merci d'être revenu à moi. Je vous informe que les préalables sécuritaires sont connus. C'est pourquoi vous retrouvez même dans les objectifs à atteindre à l'article 3, on parle du premier point, l'amélioration de l'environnement sécuritaire. Et en plus, il y a la division du travail. Comme venait de dire tout de suite mon collègue de l'Assemblée nationale, sur le plan stratégique, on ne peut pas interdire au gouvernement d'anticiper. Et cette anticipation n'est pas tellement une anticipation, mais c'est une réalisation. Je vous informerai en passant, quand on a posé une question sur les 20 millions ou le budget, tout ça, non, il y a la lutte contre les violences, où l'engagement financier a déjà été prononcé. C'est de 8 à 10 millions. Il y a les Pays-Bas, la Belgique. Tous les pays du monde acceptent aujourd'hui d'appuyer la République pour la reconstruction post-conflit. Et à côté de ce programme, il y a l'armée qui a sa mission traditionnelle. Le collègue honorable Boulay l'a dit. Et tous les services fonctionnent. Vous-même, vous avez la mission de vulgariser les missions des SAREC et pas de décourager. Mais qu'est-ce que je veux dire? Pour que ce programme réussisse mieux, en dehors de ces préalables, moi je veux vous dire, nous devons y aller avec beaucoup d'objectivité et d'optimisme. Le gouvernement congolais ne doit pas oublier qu'il doit d'abord commencer par mobiliser de fonds.
Et à cela,
les fonds qui viendront du gouvernement.
Avec le même budget.
Le même budget.
Semblable à celui de l'année passée.
En dehors du budget, en dehors de l'appui qui pourrait venir des partenaires, il faut qu'il y ait une manifestation du gouvernement en prévoyant dans son budget ce qu'il va faire. Il faut un renforcement des capacités. Renforcement des capacités de toutes les couches qui vont participer, la population, les autorités locales, et aussi, il faut renforcer des dispositions légales et réglementaires. Je veux aussi insister sur le renforcement de différentes structures attenant aux dispositifs sécuritaires. Voilà, pour moi, toutes les chances sont données à ce programme de réussir et que la population reçoive ce programme avec beaucoup d'optimisme. Et j'ai toujours dit ça, les pessimistes, les prophètes de malheur diront autre chose, mais ce programme viendra réaliser sa mission telle que prévue avec la volonté de tous, que, puisque les décideurs politiques et les partenaires sont d'avis que l'on doit arriver à réaliser la reconstruction post-conflit, consolider la paix, désenclaver les villages et puis remettre les militaires qui sont en errance dans des casernes pour que la paix revienne.
Merci, honorable. C'est aussi votre conclusion. Honorable Mohamed Boulay, votre conclusion également en 30 secondes.
On n'a pas encore conclu. Oui, la conclusion, donc, c'est vrai, nous sommes d'avis d'être optimistes. Mais nous voulons que les choses ne tardent pas pour faire des corrections lorsque la réalisation du chemin faisant, sur le parcours, qu'on s'arrête pour dire que ceci a marché, ceci n'a pas marché, et que courageusement, on puisse prendre d'autres mesures correctives pour améliorer ce qui n'avait pas été.
Merci. Jason Luneno, en un mot également votre conclusion.
Je voudrais dire en un mot comme conclusion qu'il y a des réalités qui vont gêner dans les parcours du programme SARES. Les réalités, nous sommes en train de le voir ici dans notre province, c'est que le programme SARES a hérité la calamité de situation du programme Amani. Le programme Amani n'a pas
fini.
Merci, Jason Luneno. C'est la fin de cette émission qui a été réalisée par Kéline Kouté, assistée de Samuel Kachak. La mise en onde est signée Jean-Claude Nsiala, la coordination de Martin Sebujangwe, la présentation Alain Hirung. Vous souhaitez réécouter cette émission, retrouvez-la sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net. Au revoir.